Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Devrait nous arrêter de vivre. Bienvenue à la conspiration des planches. On peut sortir sous la pluie et aller au théâtre. Il fait sec et en mille émotions. Ce soir, on vous emmène au Coq à l'Âne, au théâtre Le Public, au Pé National de Geneviève Damas. On vous emmène au cirque sous chapiteau, cirque québécois. On vous emmène au Varia voir l'iceberg qui cache la forêt. Et dans la dernière création de Transquinquennale, l'As et Stupidez, c'est-à-dire la connerie, un metteur en scène argentin jamais venu en Belgique. À côté de moi, Nicolas, la technique, bonsoir, bonjour.
Salut.
Et Catherine, bonsoir, bonjour.
Bonjour.
Catherine qui bouffe des planches parce que l'essentiel de l'émission se fera avec elle. Elle est partie un peu partout dans Bruxelles, la conspiration des planches, donc l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus. Comme chaque mercredi en direct 19h-19h30 et en rediffusion le jeudi dès 13h30, la petite demi-heure des créations à Bruxelles. Et donc Catherine, toi tu es partie au public, t'en as vu deux. Donc le Coq à l'Âne d'abord.
Du Coq à l'Âne de Laurence Vielle et Pé National de Geneviève Damas. Alors c'est assez curieux qu'en ce moment le théâtre fait une sorte de psychanalyse de retour sur sa propre histoire. Il y avait déjà eu le Carnaval des Ombres au Rideau de Bruxelles qui revenait sur une période assez méconnue mais quand même douloureuse de l'histoire belge, donc l'annexion des cantons de l'Est par l'Allemagne nazie. Ça, c'était Serge de Moulin qui portait ce beau seul en scène. Et un petit peu dans la même époque, Laurence Vielle, dans Du Coq à l'Âne, revient sur sa propre histoire, l'histoire de sa famille, la partie flamande de sa famille, notamment son arrière-grand-mère, qui a eu deux fils qui étaient résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, et un frère qui était, lui, collaborationniste. Et à cela s'ajoute un neveu qui était prêtre et qui a dénoncé ses deux fils résistants, dont un est mort dans les camps.
Oh, la totale.
Voilà. Et donc, c'est cette histoire-là qu'elle raconte. Alors, pourquoi du coq à l'âne? C'est un jeu de mots, puisque l'âne, ce n'est pas l'animal. Dans ce titre-là, c'est la ville, plutôt, on va dire, le village de l'âne, au sud de Bruxelles. Parce qu'en fait, Laurence Vielle, c'est une grande marcheuse. Elle avait déjà signé état de marche au Tanneur, à partir d'un périple de Bruxelles à Paris. Ici, elle est partie du Coq, sur la côte flamande, du bord de la mer, pour marcher jusqu'à l'âne, donc en traversant Bruxelles. Et c'est à la fin de ce périple-là, parce qu'elle a apparemment besoin de marcher pour susciter son inspiration, à la fin de ce périple-là, à la lisière de la forêt de Soignes, elle a eu cette vision de deux petites chaises d'enfants dans la forêt qui lui ont soudain évoqué ses ancêtres, donc son arrière-grand-mère, en conversation avec son grand-oncle, sur cette période-là. Et voilà, de là, elle a tissé son histoire authentique, puisqu'elle est allée jusqu'en Suisse pour retrouver le fils donc de ce grand-oncle collaborationniste, pour essayer de comprendre un petit peu le poids de ce passé-là, puisque cet homme avait, après la guerre, été condamné à mort. Il a réussi à s'enfuir. Il est finalement devenu médecin réputé en Suisse. Mais bon, c'est quand même quelque chose de lourd à porter pour les descendants. Elle a aussi côtoyé des archivistes, des historiens, dont Bruno de Wever, qui est le frère de Bart de Wever.
Mais comment ça se met tout ça en scène? Elle en fait une fable? Alors, prend du son dans sa marche? Parce que dans l'état de marche, elle avait pris du son en cours de route.
Surtout des vidéos, je dirais, surtout des images. En fait, je dirais que ça lui correspond tout à fait, puisque ça saute du coq à l'âne. Moi, c'est ce qui m'a un petit peu dérangée, surtout au début. Donc, il y a un côté très brouillon. Elle parle à la fois de son périple. Tout à coup, on voit des images d'elle en train d'essayer un vélo très bizarre, parce qu'ils ont rencontré un fabricant de vélos sur leur chemin qui fait des vélos sans pédales. Où en fait, c'est un tandem, on le fait à deux, et c'est avec un système de selles qui monte et qui descend.
C'est comme c'est à la mer, on peut pratiquer ce genre de vélo. Il y a une petite attraction comme
ah,
ça.
Ah d'accord. Moi j'ai jamais vu ça, mais voilà, elle transforme ce vélo évidemment en métaphore de la Belgique où on est quand même à deux. C'est un peu bancal, mais finalement on arrive à avancer.
Et donc elle est seule sur scène.
Elle est seule sur scène. Elle joue tous les personnages, pas toujours de manière très claire. Ça, je trouve que c'est un gros bémol. Alors, parfois, elle met une casquette et on comprend que c'est un des fils résistants. Parfois, elle revient avec un foulard et des lunettes et c'est une archiviste qui vient raconter sa version de l'histoire. Tout d'un coup, elle joue avec une marionnette d'Anne.
Et dans le chaos, l'émotion ou l'histoire arrive à percer ?
Alors, dans tout ça, on comprend donc son histoire. On comprend tout ce que je viens de vous raconter, de vous résumer. Et ce qui est très intéressant... et qui va peut-être faire grincer des dents, c'est qu'elle fait plus ou moins un lien entre la frustration de certains Flamands par rapport au mépris qu'il y avait à cette époque-là par rapport à leur langue, par rapport à leur culture, le fait que certains soldats, apparemment, c'est le mythe, ne comprenaient pas les ordres qu'on leur donnait puisqu'on les leur donnait en français. Tout ça, elle le lie à un sentiment, elle le lie au fait que beaucoup ont été collaborationnistes, qu'il y avait un fond identitaire dans ce phénomène-là. Voilà.
Alors mais c'est pas pour rien qu'elle a rencontré Bruno De Wever, qui a travaillé là-dessus. À mon avis.
Sans doute, sans doute. Et donc, tout ça résonne évidemment avec l'actualité, avec les rancœurs d'aujourd'hui. Donc, tout ça, ça fait du sens, ça fait réfléchir. Moi, ça m'a fait très fort penser au Chagrin des Belges de Hugo Claus, puisque ça parle exactement de la même chose. Enfin, en tout cas, de la même période, mais plus de l'intérieur, évidemment.
Et sur scène, elle a une sobriété, parce que c'est dans la salle des voûtes ou...
Non, elle, c'est pas quelqu'un qui fait dans la sobriété d'habitude. Donc, elle a en plus cette manie qui, moi, m'irrite un petit peu de tomber dans une candeur exagérée, de jouer un petit peu les petites filles.
Et c'est parce que Laurence Vieille a un jeu et une voix très, très typée, hein, très singulière.
Enfin, moi, je l'ai rencontrée après. Elle te parle de manière tout à fait normale. Donc, je comprends pas pourquoi, dès qu'elle est sur scène, elle adopte cette posture-là qui, moi, me bloque un petit peu. Mais ça, mis à part, je trouve que ça fait réfléchir. Le contexte est intéressant. En même temps, cette vivacité, ça donne une légèreté à la pièce. Donc, ça la rend plus digeste, peut-être. Voilà, le public était très conquis. Voilà, c'est une pièce qui reste intéressante pour revenir un petit peu sur le passé de la Belgique et expliquer le présent.
Et Paix nationale, justement ?
Alors, en même temps, se joue Paix nationale de Geneviève Damas, qui fait aussi écho à l'actualité, puisqu'elle imagine... le futur de la Belgique, mais un futur apocalyptique où la Flandre en a eu marre, a largué les amarres et a pris la mer avec.
C'est bien la mer qui va les prendre.
et les autres se retrouvent là un petit peu perdus dans des camps de réacclimatation. Et dans un de ces camps, il y a Geneviève Damas qui joue une rescapée. On ne sait pas très bien ce qu'est devenu sa famille et elle doit cohabiter avec parce qu'elle nomme jamais le Nord et le Sud ni la Belgique, c'est ici et là-bas. Donc elle vient d'ici et elle doit cohabiter avec un homme qui vient de là-bas mais qui a été abandonné par les siens. Et donc voilà, tout ça est assez, je trouve, cliché et caricatural. Ils doivent, pour gagner leur pain et leur nourriture et leur logement, trier des choux de Bruxelles entre les choux verts et les verts choux. Donc il y a un côté très surréaliste.
C'est comme dans les Schtroumpfs, ça.
Ah, voilà.
Merci les références de Nicolas.
Ben, Schtroumpf vert et vert Schtroumpf, un excellent album.
Blankenberg et les Schtroumpfs.
Et voilà, et tout ça finit assez bien parce qu'il y a un troisième personnage qui va venir pour finir par les souder. Ils vont s'entraider. C'était très convenu et prévisible. Donc voilà, moi j'ai moins aimé Paix nationale que Du coq à l'âne.
Et alors, au niveau des mises en scène, dont chacune se met en scène ?
Alors, Laurence Vielle a demandé à Pietro Pizzuti d'être l'œil extérieur à la mise en scène. Et dans Paix nationale, c'est le même Pietro Pizzuti qui met en scène la pièce.
C'est pas les premières fois qu'il les met toutes les deux en scène.
Non.
Et c'est tous les deux dans les salles. Qui prend la salle des voûtes ? Qui prend la grande salle ?
Paix nationale, c'est dans la salle des voûtes. Et Du coq à l'âne, c'est dans la petite salle, dans la cave en fait.
Oui, ça nécessite des petites salles. Et je suppose au public, c'est des longues dates, donc c'est à voir.
Oui, c'est jusqu'au 26 mai, si je ne m'abuse, pour du Coq à l'âne, et jusqu'au 30 mai pour Paix Nationale.
www.lepublic.be.
Merci Nicolas. On va au cirque, on va un peu se dévergonder. Donc c'est du cirque québécois, Catherine, que tu as vu, et Nico aussi, vous connaissez Hopla. Donc
en tout cas, moi je ne les ai pas encore vus, mais j'ai pu rencontrer cette compagnie. C'était le gros du festival Hopla le week-end dernier, avec plein d'activités du côté du quartier de Sainte-Catherine, et avec un drôle de chapiteau qui s'est installé du côté du Vismet, avec notamment cette compagnie Vague de Cirque créée au Québec et qui réside là-bas. Et l'histoire est un peu particulière parce que vous savez peut-être qu'au Québec, il n'y a pas de tradition de cirque nomade. Et eux, de leurs îles de la Madeleine, déjà perdues dans l'estuaire du Saint-Laurent, là, donc dans l'embouchure du Saint-Laurent, eh bien, ils ont voulu créer cette tradition du cirque itinérant en abandonnant un petit peu les gros moyens du Cirque du Soleil qui est internationalement connu aujourd'hui. Et ce qu'ils ont voulu faire, et ça Catherine va sans doute confirmer, c'est revenir aux bases du cirque, c'est-à-dire à l'acrobatie, à la jonglerie, à la magie, avec un certain second degré. Et je crois que c'est pour cela que ce spectacle s'appelle Cabotinage.
Ah oui, ça cabotine d'un bout à l'autre. Il y a plein d'artistes, je crois qu'il y en a une dizaine, mais ce qui est très drôle, c'est l'autodérision. Donc, ils essaient de prétendre qu'on va faire un cirque prétentieux, avec des grands moyens, grandiloquents, et puis finalement, c'est un peu foireux, un peu bancal, mais hyper contrôlé, évidemment. Et il y a une simplicité, en fait, une convivialité très contagieuse du fait qu'ils ne se prennent pas du tout au sérieux. Mais en même temps, il y a quand même des prouesses impressionnantes du main à main, de la voltige, de la jonglerie, du patin roulette acrobatique. Donc, c'est plein de petits numéros, mais qui s'enchaînent grâce à des animateurs volontairement ringards. Et des costumes improbables où ils débarquent en toge romaine alors en costume lycra à la Véronique et Davina. Et ça part dans tous les sens, c'est très cabaret. Mais c'est, enfin, moi, c'est, il faut aimer ce genre d'humour-là. Je pense pas que ça plaît à tout le monde, mais moi, j'ai beaucoup ri et j'ai passé un super moment.
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'ils ne fustigent pas les grands barnums comme le Cirque du Soleil. Ils sont passés aussi, en tout cas certains, par le cirque éloise qu'on a l'occasion de voir souvent aussi chez nous. Et c'est justement parce qu'ils ont pu connaître ce côté-là qu'ils se permettent de revenir à ce second degré, à cette distance qu'ils prennent par rapport à leur métier. Puisque finalement, à la base, ça reste leur métier, faire du spectacle, des arts du cirque, et un cirque intéressant, un peu un vent de fraîcheur peut-être là-dessus.
Mais il y a cette petite critique au milieu du cirque, je pense au directeur de l'ESAC qui disait à un moment donné, il faut arrêter de, d'accord, cirque danse, cirque théâtre, mais il dit à un moment donné, il faut revenir à l'essentiel, au numéro, et lui revendiquer ça auprès de ses étudiants qui, eux, voulaient faire du pluridisciplinaire. Certains font, il y a ce gars qui est dans la roue cirque, qui fait de la danse contemporaine avec Anne-Thérèse, et lui disait, bon, il y a de temps en temps, il faut peut-être rappeler aux gens que le cirque, il y a aussi d'abord un numéro.
Oui, mais il y a quand même, moi je trouve, c'est très agréable de trouver des cirques canadiens qui s'éloignent du côté hyper huilé du Cirque du Soleil aujourd'hui, où on retrouve un peu d'humanité tout simplement, ce ne sont pas des machines.
Et c'est le but du Festival Hopla, c'est de ramener le cirque au cœur de la ville, puisque pendant un certain temps, les grands chapiteaux ont été relégués sur des parkings des supermarchés ou quelque chose comme ça. Et là, il revient au cœur de la ville et c'est cette rencontre à nouveau avec les gens et le public, parce que le Festival Hopla aussi travaille sur l'intégration dans le quartier avec la maison du cirque qui n'est pas loin.
Et ce spectacle, donc, cabotinage des cirques québécois, est à voir quand encore?
Jusqu'à
tous les soirs,
ce week-end.
Jusqu'à samedi.
Jusqu'à samedi, sous chapiteau, en plein Bruxelles.
Et on m'a dit qu'il y avait très peu de place encore, donc il faut se dépêcher pour aller voir ce spectacle.
Alors quoi, c'est 3xW la maison du cirque?
Non, 3xW.hopla, hopla-cirque, mais CIRK.be, hopla-cirque.be.
Et le spectacle s'appelle Cabotinage.
La conspiration.
Alors, retour à la conspiration des planches. Moi, je vous emmène au Tanneur. Alors, quand Transquinquennal fait une création, Lorient, il y a tout le milieu qui est en émoi, transquinconal collectif bruxellois qui avait donné Zugzwang, qui avait donné Yaya Marnéné, enfin un collectif qui joue un peu sur la désinvolture, et ces 3-4 bandes de copains qui sont sortis du conservatoire, ils ont leur classe, mais ils ont un peu rejeté le jeu classique du théâtre, et ils ont fait quelque chose de très désinvolte, très cool, qui donc attire un peu un public, un club de fans. Et donc ici, ils se sont attaqués à un texte. Alors quand ils s'attaquent à un texte, moi je dis tout le temps, ça craint. Bon, quand ils s'attaquent à Savitskaya, ce genre de, ou à Blasban, ça leur va. Quand ils prennent d'autres textes, ils avaient fait un Shakespeare dans les toilettes, par exemple, pour montrer que le pouvoir pouvait se négocier, là, trois gars en costard-cravate dans une pissotière. Bon, ça faisait un peu un flop. Donc moi, je craignais ces stupidesses de Raphaël... Le nom est compliqué, Spreckelburt, qui est un auteur argentin, auteur, metteur en scène, comédien. Il fait la totale en Argentine. Nous, on le connaît moins ici. Il circule apparemment dans la scène allemande et la scène latino, évidemment, espagnole et tout. On l'a croisé à Avignon dans deux spectacles de Martial Difonso Bo. Moi, j'avais pas trop accroché. C'est très baroque, très foisonnant. Et le gars a une écriture mais complètement délirante et complètement foisonnante. Moi, j'ai eu l'occasion de feuilleter un peu ce texte. Là, c'est stupidesse. Et vraiment, on piche pas à la lecture, il y a des pièces de théâtre, à la lecture on les comprend pas bien parce qu'ils ont besoin justement du plateau pour vivre, donc moi j'y allais avec des pieds de plomb, d'autant que je vous le dis d'emblée, c'est 3h, 3h30 de spectacle, donc on s'est dit, putain, transquinquennal fait chier, ça c'est avant d'y aller, donc voilà, alors un petit mot sur la pièce, c'est là c'est stupidesse, donc c'est deux pièces de ce gars pour l'instant en Belgique, l'une est au théâtre de la Place en ce moment même, qui s'appelle La Paranoïa, et ici nous on a La Connerie. Et en fait, cet auteur argentin, depuis 1996, s'est amusé à revisiter les péchés capitaux, les 7 péchés capitaux pour notre époque, et il s'est inspiré de la ronde de Jérôme Bosch. Par exemple, ici, c'est la connerie. Il a transformé, par exemple, la paresse devient la panique. L'orgueil, ça a été la pièce qui s'appelle la modestie. La colère, c'est l'entêtement. Et ici, donc, on a là, c'est stupidesse, la connerie, qui en fait équivaut au péché de l'avarice. Alors déjà, ça, c'est un peu curieux à comprendre. Et alors, c'est une pièce qui se passe à Las Vegas, dans un motel où on va parler énormément de fric et de fric, d'argent et de personnages qui partent et qui viennent. Il y a 25 personnages joués par 5 comédiens. Donc ça, c'est voulu dans la pièce. Il l'a écrit comme ça. Les scènes se passent en même temps. Donc il y a un couple qui est dans son coin. Donc des scènes simultanées et juxtaposées côte à côte. Donc déjà, la lecture, on piche pas. Mais sur scène hier, c'est la première prouesse du collectif transquinquennal. C'est d'abord avoir tiré une véritable lisibilité de ce texte. On est dans une chambre d'hôtel. La simple scénographie, une chambre d'hôtel avec une baie vitrée qui donne sur une cour extérieure. C'est un théâtre réaliste figuratif. Et tous ces personnages vont rentrer, mais un truc tout con, tout efficace, ils sortent par la salle de bain, par une porte, et quand ils font le tour, ils ont un autre costume et c'est déjà un autre personnage dans la même chambre. Donc on va voir plusieurs personnages. Il y a par exemple des flics qui sont dans ce motel, il y a un couple qui essaye de vendre une œuvre d'art dans ce motel, il y en a d'autres qui jouent dans un casino, alors ils jouent tout le temps, ils ont un système pour gagner, en fait ils gagnent 151 $ qu'ils doivent se partager à 5, et c'est un truc où ils gagnent toujours, mais à un moment donné, bon, ça va loin, ils savent pas, alors il y a une des personnes, il faut partager les 151 $ en 5, donc ça se prend la tête parce qu'il y en a un qui prend des biscuits, alors on le compte dans la cagnotte ou pas, c'est ce genre de délire, les flics sont des ripos. À un moment donné, sur une scène de crime, il découvre une valise avec du pognon et il décide de se partager. Il y a deux flics qui sont homo. Il y a toutes des petites combines comme ça. Évidemment, la vente de tableaux, c'est complètement délirant parce que c'est un tableau qui est effacé avec des taches. Et alors, on ne sait plus qui arnaque qui dans cette histoire parce qu'il y a un travail sur la fiction, sur ce besoin que les gens ont de fiction. Donc, ça va loin. C'est vraiment l'arroseur arrosé. Ils sont en train d'arnaquer un gars qui a du fric pour acheter une peinture, mais finalement, c'est le gars qui a du fric qui invente l'histoire d'un mouvement, d'une peinture qui est apparemment connue. On ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux. Là-dedans, vous rajoutez évidemment un scientifique qui a découvert une équation scientifique quantique, qui découvre une équation pour trouver l'avenir, et tout s'en mêle l'un dans l'autre. Mais croyez-moi, il y a une lisibilité et il y a l'idée du soap, hein, de la série, sans les gros rires, sans tout le gras à côté. C'est quelque chose de très lisible. Alors, c'est étonnant de voir Transquinquennal dans un jeu de personnages, parce qu'ils incarnent des personnages, ils ont des costumes, mais c'est, quand on les voit débarquer en flic, c'est à mourir de rire, c'est tordant. Quand on les voit, les cinq troufions là, qui sont dans cette chambre de motel et qui se partagent ce jeu de casino, c'est des beaufs autour d'un barbecue, mais alors beaufs, mais superbement dessinés. Et il y a toute tout plein de personnages comme ça, haut en couleur, ils sont à cinq à jouer. Alors on se disait, transquinquennal, jouer des personnages, c'est pas trop leur truc, eux qui sont toujours ouais, tranquilles, nous on vous explique ce qui se passe dans une distanciation face au personnage. Ici, il n'y a pas à dire, ils savent jouer. Moi, c'est la première fois.
Ça fonctionne. Fois.
Je me suis dit, ok, ils savent jouer, donc on aimerait bien un peu les voir séparément, cette bande, dans d'autres spectacles, parce que franchement, ça a été, moi, ça m'a impressionné pendant 3 heures, d'où j'ai tenu 3h30. Et ça se regarde vraiment comme dit Petit Lé, parce qu'il y a ce passage, il y a ces histoires rocambolesques qui sont vraiment à prendre au dixième degré, mais un truc de fou. Alors vraiment, les comédiens sont remarquables. Il y a Bernard Breuse, Miguel Declercq, Christine de Pros, Pierre Startenard qui revient dans Transquinquennal, il avait disparu, et Mélanie Zuncconi. Bon, Transquinquennal garde leur ton désinvolte, hein, quand ils se pointent, c'est pas, ils jouent pas la psychologie du personnage à fond, ils ont quelque chose comme ça de retrait vis-à-vis de leur personnage qui donne les 2-3 degrés comme ça, et on voit qu'on est dans une espèce de société de fous avides d'argent, et à qui mieux pour arnaquer l'autre. Donc je le recommande, mais c'est quand même 3h30, je vous le préviens.
Et c'est à voir jusqu'au 21 avril au théâtre Les Tanneurs, www.letanneurs.be.
Et je dirais mieux, même mieux, c'est à voir jusqu'au 28 avril.
Ah bon ?
28 avril, après ça passe au théâtre de la place à Liège.
Ah, tu ne dis pas tout.
Bon, après les tarés de transquinquennal, on va à l'iceberg qui cache la forêt, Catherine.
Oui, c'est un curieux objet, l'iceberg qui cache la forêt de Virginie Thirion, mis en scène par Virginie Thirion et chorégraphié par Nadine Ganaz. Voilà, alors c'est une bonne idée, même si on l'a déjà vu ailleurs. En gros, c'est une histoire d'amour, sauf que au lieu d'être joué par un seul couple, donc deux comédiens, c'est en plus dédoublé par deux danseurs. Donc les comédiens sont là pour dire les mots, incarner les personnages, et les danseurs sont là pour exprimer par le corps ce que les mots ne disent pas. Donc tous les non-dits, les fantasmes, les illusions, voilà. On l'a déjà vu ailleurs, mais là c'est fait de manière assez subtile, assez délicate. L'écriture de Virginie Thirion est toujours singulière. Moi, j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé Rentrer vos poules au Varia, déjà. Et j'aime toujours autant cette écriture très, très sautillante, très imprévisible, pleine d'humour. Ça commence, en fait, dans un supermarché où lui est caissier et elle est dans la file de cette caisse.
Ah,
et,
ça change.
Ouais. Elle pense à quelque chose qui l'a fait sourire. Lui voit ce sourire qui va provoquer des réactions physiologiques chez lui, incontrôlables. Et puis va commencer à transpirer un petit peu. Et la bonne femme qui est en face de lui va se méprendre sur cette transpiration, sur cet état bizarre de ce jeune homme caissier. Et ce malentendu va provoquer le fait qu'il perde son travail. Mais finalement, il va tomber amoureux de la jeune fille au sourire. Voilà. Ils vont vivre ensemble, mais la relation est compliquée. Elle travaille dans un magasin de photocopie. Enfin, c'est très bizarre comme histoire. Ça pourrait être très banal, mais c'est raconté avec beaucoup d'humour, beaucoup de décalage. Et en plus, il y a cet effet de miroir dans la scénographie, dans les danseurs, qui ajoute un petit quelque chose en plus, qui fait qu'on accroche à cette pièce, qui est très agréable à regarder, qui révolutionne pas du tout le monde du théâtre, mais qui est très bien faite, tout simplement, qui dure 1h15 maximum. Donc voilà, c'est une petite soirée sympathique.
Et au niveau chorégraphique, il y a quelque chose d'intéressant ?
Oui, c'est très abstrait, évidemment, au niveau chorégraphique.
Mais l'amour donne plein de mouvements, de l'enlacement, de la chute.
Oui, puis parfois, ils se joignent aux deux comédiens, par exemple, au moment d'un repas. Et tout ça se fait de manière très naturelle. Et puis, on entend des voix off. C'est en fait plein de manières de dédoubler une histoire et d'aller creuser un petit peu plus loin dans ce qu'on ne se dit pas dans la vie de tous les jours. On ne se dit jamais tout. Et cette pièce parle de ça. C'est très chouette. Et c'est à voir jusqu'au 28 avril aussi, je crois.
Du côté du Théâtre Varia, c'est au Petit Varia, www.varia.be.
En tout cas, moi, ça me tente beaucoup. Et ça me tente comme ce curieux truc qui se joue ce week-end au Beaux-Arts. C'est Interior de Maeterlinck. Inspiré de Maeterlinck, ça vient d'Angleterre. Alors, c'est tout simple aussi. Hein, c'est vraiment au théâtre. C'est une histoire de famille, un repas de famille à Noël ou pendant l'hiver. L'astuce de cette mise en scène, c'est qu'il y a on va les voir de l'extérieur, donc il y a un mur, une fenêtre qui les enferme dans l'intérieur. On est vraiment dans le spectateur qui observe par la fenêtre, et il y a une voix, une récitante à l'avant de scène qui va nous donner des pistes pour un peu comprendre finalement ce théâtre sans parole qui se joue à l'intérieur. Et apparemment,
on les voit parler, mais on les entend pas.
On les voit parler, on les voit en scène, comme on regarde, qui n'a pas regardé par une fenêtre ce qui se passe dès qu'on voit à l'intérieur d'une maison. Chez Catherine, par exemple, on voit très bien quand on passe à l'extérieur. Je crois qu'elle n'a pas de rideau. Et donc, voilà, donc on surprend. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, il y a une fête. Et il y a toute la tablée, et donc un rebondissement. Et en plus, ici, on a quand même des petites astuces d'une récitante pour nous raconter. Donc, c'est vraiment une drôle d'expérience à voir vendredi et samedi à Beaux-Arts. Autre expérience, mais là, on les voit, on les entend, et ils sont presque à côté de nous. C'est quelque chose de très sobre. C'est la reprise de Histoire d'un idiot de guerre de Celestini, qu'on avait vu, Catherine, en son temps, et qu'on avait apprécié. C'est Angelo Bison et Pietro Pizzuti, on le retrouve, tiens, ici, un comédien, qui prennent l'histoire de Celestini. Celestini, c'est un conteur italien. Quand vous voyez, il a la chatte italienne, et il raconte toujours des histoires sociales du peuple, mais mélangées avec une façon plus un peu plus politique dedans. Ici, on est dans une trame, bon, on l'a vu il y a quelque temps, on est dans une trame à l'après-guerre, bon, tout le monde crève de faim, on est dans un pays à Rome, probablement dans une ville italienne, et une des personnes a trouvé un cochon qu'il faut cuire, et pour faire cuire ce cochon, il faut de l'oignon, des oignons, et alors ils vont sortir dans la ville pour aller chercher ces oignons, et d'aventure en aventure, je ne sais même plus si à la fin ils retrouvent l'oignon ou pas, mais il y a toute cette ville en ruine qu'on traverse, et cette débrouille cocasse et comique, et en même temps tragique, pour trouver de l'oignon, pour chauffer.
C'est un fabuleux raconteur d'histoire, Ascanio Celestini. On avait vu Fabrica, joué par le même Ascanio Celestini, ou pareil, entre conte et véritable histoire.
Mm-hmm. Pecora Nera aussi, je crois que c'était lui.
Non, qui?
Pecora Nera, oui. C'était ça?
Pecora Nera, oui. Aussi joué par Ascanio Celestini. C'est toujours assez sobre.
C'est l'histoire du conteur, on est assis, il y a une petite lampe, et là aussi ils sont à deux, il y a un petit amas de petites ampoules, et l'histoire se raconte entre les deux qui portent une voix. C'était très émouvant et très beau à voir. C'est aussi ce week-end à Volubilis. Et ainsi se termine la conspiration des planches. Il y a de quoi faire, hein, malgré la pluie. À la semaine prochaine, bonne soirée, bonne planche, à bientôt.
Ciao.
À la semaine prochaine, et n'oubliez pas que le podcast de cette émission est audible sur demandezleprogramme.be et sur le site également de la Bellone, bellone.be. Très belle semaine à vous. Gracias.